Good morning.
Bonjour à tous. Je m'appelle Sherry Hill. Je suis directrice par intérim de la recherche et de la planification stratégique à la Société de développement des médias de l'Ontario. Je suis accompagnée aujourd'hui de Ariane Moscatelli-Frey, Jen Brown et Amanda Harris. Je suis très heureuse que vous ayez pu vous joindre à nous pour notre premier déjeuner dialogue. Nous remercions beaucoup KPMG qui nous a offert cette salle et qui nous a aidé à nous organiser. Je voudrais vous présenter Jeff McDonald, associé de KPMG, qui voudrait vous dire quelques mots. Je voudrais vous remercier de vous joindre à nous. Je sais que vous n'êtes pas ici pour voir un comptable vous parler très longuement. Nous attendons que d'autres personnes prennent la parole. Mais je voudrais vous féliciter. Cette idée est issue d'une discussion qui a eu lieu il y a quelque temps. Je suis heureux de voir que vous êtes venu ce matin. Je me réjouis de cette discussion. Bienvenue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la SODIMO, la Société de développement des médias de l'Ontario, nous sommes un organisme relevant du gouvernement de l'Ontario dont le mandat est de stimuler l'économie créative de l'Ontario, notamment dans les domaines de l'édition de livres et de revues, le cinéma, la musique, la télévision et les médias interactifs et numériques. Nous avons recours à ce genre de sessions et d'activités. Nous recueillons les membres des industries médias créative pour discuter des enjeux qui touchent le domaine. Nous espérons que cette séance vous permettra de faire de nouvelles rencontres et d'étudier de nouvelles idées. L'enjeu de ce matin est celui-ci. Faisons affaire la négociation des droits de licence et des droits d'auteur sur les nouvelles plateformes. La SODIMO a financé au cours des dernières années des recherches en vue d'aider les producteurs de contenu à diversifier leurs sources de revenus. Les producteurs de films et d'émissions de télévision, les concepteurs de jeux, les entreprises d'enregistrement, les revues numériques essaient de trouver des façons de diversifier leurs plateformes. En particulier pour les sites d'entreprise, la négociation des modalités des contrats peut être assez difficile. Vous pouvez consulter la page collaboration de notre site Web. Notre animateur, Doug Murray, compte une longue expérience de l'aide aux créateurs de contenu et il a aussi aidé d'autres propriétaires de contenu à diversifier leurs sources de revenus. Mais Doug Murray va nous présenter un aperçu de l'industrie et diriger la discussion aujourd'hui. Doug Murray est associé au sein de Taylor Klein Obala, entreprise de divertissement canadienne. Doug représente différents producteurs, investisseurs, prêteurs, artistes, réalisateurs et comédiens. Doug a une expérience de conseiller juridique. Travaillé dans le domaine des acquisitions des droits, le financement des émissions, crédits d'impôt, E&O et accords de distribution. Nos panélistes, John Bartlett de Kelp Records, Scott Simpson de Bitheads et Michael Dubin de A Quiet Revolution Pictures. Nous vous remercions d'être parmi nous. Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à Doug Murray, John Bartlett, Scott Simpson et Michael Dubin. Je vous remercie beaucoup, Sherry. Je suis très heureux d'être ici. Je suis aussi ravi du fait que vous m'ayez invité à participer à ce panéliste de renom, non seulement pour parler de la façon de diffuser les histoires sur diverses plateformes. C'est la façon dont nous voyons les choses. Il s'agit aussi de voir comment on s'y prend. Il ne s'agit pas simplement de parler des diverses plateformes, mais de la façon dont on les exploite. Il s'agit de savoir comment s'y prendre, quels sont les producteurs s'adressent. Est-ce qu'ils ont recours à des œuvres à louer? Est-ce qu'il s'agit de coproduction? Et lorsque l'on évalue si l'entreprise vaut la peine, ça fait partie du processus décisionnel. Il faut évidemment tenir compte des dépenses engagées. Il faut savoir ce qui est le plus rentable dans le nouveau monde numérique et aussi quelles seraient les modalités d'un contrat à conclure. Quelle part des revenus serait prévue pour le concepteur qui serait responsable de différents éléments ou dans le cadre d'un budget pour exploiter le contenu. Alors, on ne va peut-être pas aborder tous ces éléments. Nous allons faire de notre mieux. Nous avons des panélistes expérimentés. Je vais vous présenter à mes côtés John Bartlett de Kelp Records. John a fondé Kelp Records en 1984. C'est une entreprise qui a pris de l'ampleur, qui est basée à Ottawa. John est également le directeur de Megafono, un organisme visant à faire connaître la musique produite à Ottawa au monde. La première édition d'un festival a eu lieu en février 2015. Il est aussi le directeur exécutif de l'Association des industries de la musique et siège au conseil d'admission de la Coalition de musique d'Ottawa. À ses côtés, Michael Dobbin de Quiet Revolution Pictures. Michael Dobbin est un producteur de films basé à Ottawa. Il travaille à l'international. Il fait partie de Quiet Revolution Pictures, qui se spécialise dans les coproductions internationales et les longs-métrages. Michael a fondé un groupe qui vise à faire connaître le cinéma canadien à l'étranger. Michael Dobbin. Et à la toute fin, Scott Simpson de Playbrains, Bitheads. Il a cofondé Bitheads il y a 19 ans. Cette entreprise est devenue la plus grande entreprise de développement d'applications en Amérique du Nord. Bon, ce n'est pas. Sous sa direction, l'entreprise a développé des compétences allant des jeux mobiles à toutes sortes d'autres de produits. Il travaille de façon bénévole au sein de le milieu à Ottawa. J'ai pensé commencer par vous demander à tous de nous expliquer quelles sont les nouveautés pour ce qui est de l'exploitation du contenu sur les diverses plateformes à l'heure actuelle. Bon, je voudrais que vous nous disiez ce qui est le plus commun et que vous nous expliquiez les enjeux auxquels vous êtes confrontés, les enjeux qui sont différents de ceux du passé. Scott, voudriez commencer? Oui, certainement. Eh bien, je suis ici pour vous parler surtout des jeux. C'est un milieu un peu comme le cinéma et les films, mais les plateformes sont plutôt rigides. En fait, leur exploitation monétaire est différente. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un bon produit. Il faut l'exploiter financièrement de la bonne façon, trouver le bon auditoire. Alors, je dirais que ce qui change le plus, c'est, bon, évidemment, il y a des cycles, mais il y a 6 mois, tout visait les mobiles. Il y a des consoles maintenant. Bon, on pensait que le PC était fini il y a 4 ans, mais ça reprend du poil de la bête. Bon, il y a évidemment la question de l'exploitation financière de ces plateformes. Bon, il ne s'agit pas simplement de produire un contenu de qualité. Bon, voilà la façon dont je ne réponds pas à votre question. C'est une très bonne réponse. Bon, je vais revenir à cela dans un instant. Mais Michael, de votre point de vue, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, de la même façon, un bon produit, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va trouver son marché. Il y a des défis semblables. De toute évidence, aujourd'hui, il y a diffusion en flux, il y a aussi le problème du piratage. Il y a des gens qui pensent que télécharger des films, ce n'est pas comme voler un DVD de Walmart. Alors ça, c'est un défi que nous devons relever. Pour ce qui est des nouveautés, De toute évidence, il y a la Sainte Graal. Quand on parle aux distributeurs, ils veulent savoir si notre produit peut être présenté sur Netflix. C'est la Sainte Graal pour notre milieu, mais Netflix, ce n'est pas nécessairement la meilleure source de revenus. C'est une question de légitimité. Bon, évidemment, l'exploitation monétaire, en fait, pour les films indépendants, les défis sont toujours les mêmes, diffuser son produit, faire connaître son produit. Les DVD continuent de se vendre pour les films indépendants. Les consommateurs qui recherchent votre film et qui le trouvent savent qu'il ne sera peut-être pas diffusé en continu dans 6 mois. Alors, il s'agit d'un domaine à explorer. Je suppose qu'au cours des décennies précédentes, on se serait demandé ce qu'on pouvait tirer de la diffusion sur grand écran par rapport à la location. Mais maintenant, il y a plus de travail à faire pour obtenir moins d'argent. Et la courbe de diminution dans les vidéos, et bon, il y a encore un grand écart dans les revenus qu'on tirait autrefois de nos films. Alors, il faut faire les films de façon à ce qu'ils coûtent moins. Les pressions budgétaires sont énormes. Et pour ce qui est des nouvelles innées, pour ce qui est des jeux et des multiplateformes, bon, nous avons fait quelques expériences avec les jeux. Bon, le film n'était pas vraiment très connu, alors le jeu ne l'a pas été plus. Nous trouvons aussi des partenaires qui produisent du contenu. Moi, je ne savais pas comment produire un jeu, alors je me suis adressée à quelqu'un qui pouvait le faire. J'ai voulu chercher des partenaires au lieu de payer des frais aux entreprises de contenu. Nous voulons aller dans cette direction. Nous reconnaissons l'importance de l'exploitation des multiplateformes, mais ce n'est pas toujours facile de mettre en place les équipes voulues. Ça exige beaucoup plus de travail pour un revenu beaucoup moins élevé. John? Eh bien, mon expérience est semblable à celle de films. Pour ce qui est de la musique, pour ce qui est c'est des multiplateformes, la musique vient souvent en bout de ligne. C'est le dernier élément qui est prévu au budget. Alors oui, j'ai participé à quelques produits. C'est étrange que vous ayez parlé de Netflix parce que la semaine dernière, j'ai parlé d'un projet. Je discutais d'un projet. Bon, on a discuté des modalités, mais la musique qu'on voulait pour ce nouveau produit, et bon, il voulait en être propriétaire. Donc, il voulait qu'un chanteur produise une chanson et leur cède les droits d'auteur. Nous avons un catalogue de musique que nous utilisons, mais parfois, lorsqu'on regarde ce qui est exigé, ce qu'on demande de nous, c'est parfois un obstacle. Oui, on a touché aux jeux vidéo, mais souvent, les modalités sont les mêmes que pour les gros projets. Donc, on vous demande d'accepter ou de laisser tomber. Oui, c'est difficile pour les artistes émergents. Bon, comme dans le cas que vous donnez en exemple, l'entreprise voulait les droits d'auteur. Alors, quelle aurait été votre réaction? Est-ce que vous acceptez ce genre de proposition? Oui, mais il faut tirer une ligne quelque part. Je pense que la façon dont on formule des hypothèses à l'égard des modalités, Bon, c'est souvent le cas de gens qui ne travaillent pas dans le domaine. Ils formulent certaines hypothèses quant à la valeur que cela présente pour l'artiste. Oui, bon, moi, j'essaie de me tenir loin de tout cela. Bon, on sous-estime et on déprécie la culture et les arts chaque année. Alors, il faut agir de façon sensée, respecter les droits des artistes. Pour revenir là-dessus, cette entreprise ne va pas essayer de faire obtenir des concessions. Bon, ça s'est présenté la semaine dernière. Bon, celui qui était responsable de la musique ne s'est pas rendu compte et a dit qu'est-ce qui peut faire l'objet d'un droit d'auteur dans ce genre de production. Alors, ceux qui sont responsables de la musique sont souvent ceux qui vont s'occuper de tous les éléments musicaux. Bon, il y a des gens qui exercent une certaine influence, d'autres pas. Alors, ils s'adressent au réalisateur en chef et pour savoir ce qu'ils doivent faire. Alors, on verra bien ce qui se passe. Oui, ça sera intéressant de voir. Alors, laissez-moi savoir ce qu'il en est. Scott, vous avez parlé de l'exploitation monétaire. Vous avez financière, vous avez dit que c'est ce qui importe vraiment, savoir comment s'y prendre pour exploiter de façon financière ces ententes. Quel type d'entente concluez-vous? Eh bien, tout dépend de la plateforme pour laquelle on crée. Bon, évidemment, la nouvelle frontière, ce serait viser l'Est, mais on parle de l'Ouest pour l'instant. Alors, on parle d'applications mobiles, des PC ou des consoles. Mais la seule façon de faire de l'argent avec les consoles, c'est de faire des produits à gros budget. Pour ce qui est des PC, ça varie. Alors, c'est encore une question d'argent, mais pour ce qui est des applications mobiles, bon, il y a une certaine renaissance pour les jeux, mais les jeux qui sont les plus utilisés sont encore des jeux qui sont offerts gratuitement. Bon, les gens en ont un peu assez de ce genre de produits, play to play. Et bon, tout dépend du genre de plateforme. Bon, si on achète beaucoup de points, on peut faire beaucoup de choses. Ou sinon, on gaspille 12 heures de sa journée. Bon, il y a diverses façons d'essayer de s'y prendre, mais vous allez voir qu'avec les jeux mobiles, autrefois, un gros budget, c'était 100 000 $, mais maintenant, c'est rien. Bon, il ne s'agit pas simplement de produire quelque chose d'amusant. Il y a toutes sortes de gens qui analysent exactement comment vous allez vous y prendre pour vendre ce produit. Bon, si c'est bleu, qui va acheter? Si c'est une autre couleur, qu'est-ce que ça va intéresser? Bon, c'est vraiment assez fou comme... parce qu'autrefois, il s'agissait de faire quelque chose d'amusant, mais maintenant, il faut que ça soit rentable. Parlons du contenu. Bon, le contenu, ça signifie presque n'importe quoi dans ce contexte. Mais dans votre cas, vous, est-ce que c'est une tierce partie qui vous pressent pour développer des applications mobiles ou est-ce que vous parlez des droits? Oui, je me demande s'il en est pour la plupart de vos produits. Eh bien, je dirais que de façon générale, la plupart des studios Et je connais un certain nombre de gens ici qui représentent des institutions. Tout le monde veut avoir sa propre propriété intellectuelle, mais évidemment, il faut financer tout cela. Alors, souvent, on travaille, on fait des œuvres à louer, et parfois, un titulaire de droit vous pressant, vous demande comment conclure une entente. Et comme Michael l'a dit, on essayait de déterminer qui va payer quoi, comment répartir les revenus. C'est peut-être censé pour un partenaire et pas pour l'autre, mais faisons semblant. Bon, supposons que Michael fait un film sur un monstre aquatique. Bon, oui, on... Bon. Disons que Michael a investi 2 millions ou 10 millions de dollars pour créer ce produit. Et dans bien des cas, lorsqu'on vous approche pour faire un jeu, bon, c'est parce qu'on a 5 000 $ de plus pour faire la promotion du film. Bon, évidemment, on ne va pas payer pour la conception du jeu. Le marketing dit, bon, nous pouvons nous occuper de la diffusion du film, mais on va aussi créer un jeu mobile avant la diffusion du film. Habituellement, le budget est insuffisant, le délai est est insuffisant pour vraiment produire un produit de qualité. Oui, bon, je vais faire un jeu mettant en vedette un monstre aquatique, mais ça intéresse personne. Alors, ces jeux sont habituellement terribles et il y a eu très peu de bons produits. Est-ce que je suis vraiment censé dire non, 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 il y a des produits qui sont vraiment très bons. Bon, ça ne sort pas de cette salle. En fait, on a essayé de faire ce genre de projet, en particulier dans une ville où il y a beaucoup d'entreprises de musique et de films. On peut participer à la pré-production. On peut dire, bon, on va essayer d'être intelligent et essayer de faire en sorte qu'il y ait production simultanée. Alors, on essaie de voir si on ne peut pas produire le jeu en même temps que le film. Bon, évidemment, c'est pas parce qu'on veut que ça produise de l'argent, mais plutôt que ça fasse connaître le film. Bon, il y a 1 000 applications qui sortent chaque jour. Alors, comment faire en sorte que l'on connaisse ce jeu? Le jeu est censé faciliter la publicité touchant le film. Alors, évidemment, c'est voué à l'échec. Je m'excuse, on devait parler d'une application ici. Je suis certaine que tout change, que ça va bien aller pour les films et pour les jeux dans peu de temps. Alors, pour ce qui est du contenu du jeu... Un jeu qui pourrait peut-être conçu un jeu maison. Donc, vous avez le contrôle du contenu. Est-ce que vous présentez parfois des producteurs? Oui, parfois, on a les droits d'exploitation, mais dans bien des cas, il y a parfois des cas où le producteur dit « Voulez-vous concevoir ce jeu? » Et bon, parfois, on peut, à peu de frais, concevoir un film. On va être titulaire des droits, mais on ne peut rien faire avec ce jeu. Ensuite, on peut revendre le jeu. Et on va se retrouver dans la situation où ça va être complètement une œuvre à louer. On va accepter 50 000 $. C'est un jeu qui doit être gratuit et parfois... Le titulaire de droit va venir nous voir et dire, bon, il faut concevoir. Alors, on a fait ça pour un concepteur de jeu. On a dépensé 1 000 000 $ pour concevoir un jeu qui devait être rentable. Alors, il y a des négociations pour nous avons des droits d'exploitation pour ce jeu avec une licence. On peut ensuite diffuser le jeu sur n'importe quelle plateforme. Oui, mais ça revient à ce que Michael disait. Dans bien des cas, ce que vous essayez de faire, c'est de convaincre quelqu'un comme Scott que, bon, c'est un projet qui vaut la peine. Ça va pas. On devrait établir un partenariat parce que moi, je n'aurais pas à vous payer autant. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce genre de situation? Est-ce qu'on vous propose exactement ce genre d'entente? Scott sera content d'entendre que nous discutons beaucoup entre nous pour voir si un jeu peut être commercialisé. Moi, j'ai connu Michael il y a 10 ans. Donc, c'était il y a 5 ou 10 ans. Michael est venu à nos studios et nous avons dit il y a un nouveau jeu que nous voulons lancer. Bon, c'était un jeu pour PC et on s'est dit, bon, ça, voici ce que ça va coûter. Bon, le projet a été abandonné parce qu'il aurait fallu investir des sommes incroyables. On a demandé si on pouvait consacrer de l'argent à la conception. On nous a dit non parce que tout le budget était consacré à la diffusion du film. Et j'ai répondu non. Oui, mais donc on a tenté l'expérience. Bon, à l'époque, on a essayé de concevoir un produit de façon novatrice. Bon, pour répondre à votre question, nous évaluons un projet. Nous nous demandons quel sera le taux de rentabilité du projet. Alors, si on avait un film pour enfants, peut-être qu'on songerait à concevoir un jeu qui porterait sur le même sujet. Bon, il ne faudrait pas que ça porte sur un sujet comme le suicide, par exemple. Alors, il y a beaucoup de films, en particulier des films indépendants canadiens, qui ne valent pas la peine. Il y a des films qui n'ont même pas de page web. Bon, s'il y a des vedettes qui font partie d'un film, alors si c'est un long métrage pour adultes, il n'y a pas de raison vraiment de lancer un produit qui l'accompagne. Bon, si la musique est intéressante, on va peut-être discuter d'une entreprise de co-marketing, mais ça exige beaucoup de travail et en fait, ce n'est pas très payant. Bon, si c'est un film de Universal Pictures, évidemment, c'est un outil de marketing. Ça sert simplement à appuyer le lancement du film. Nous essayons donc d'évaluer la situation et c'est rare que nous ayons un projet qui vaille la peine d'être exploité de cette façon. Alors, vous parlez comme distributeur. Est-ce que vous songez à rentabiliser cette entreprise? Bon, si vous voulez décider si vous allez demander des droits ancillaires. Bon, les marges sont tellement minces au Canada qu'on ne va jamais investir dans les multiplateformes pour un film canadien. En fait, ça serait très rare. Mais du côté production, nous avons parfois les droits à l'international. Il s'agit de savoir si c'est un produit qui pourrait faire l'objet d'une franchise Et souvent, la réponse est non. Et on peut savoir si le film est un succès. À ce moment-là, on peut discuter de la possibilité d'en faire une série télévisuelle. Mais on ne sait évidemment jamais à l'avance. Et comme producteur, vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qu'on nous propose chaque semaine. Et nous, nous sommes une petite entreprise. Bon, on ne nous offre jamais des émissions pour enfants. Bon, ça pourrait être un monstre provenant de l'espace. Oui, vous devriez écrire un scénario. Vendu. John. Bon, je ne veux pas nécessairement parler des multiplateformes, mais bon, pour ce qui est de la vente de la musique par de nouveaux moyens comme Shopify, comment est-ce que ça influe sur vos décisions? Eh bien, c'est des discussions qu'on a toujours. Est-ce qu'il faut diffuser par toutes les plateformes ou est-ce qu'il faut échelonner la diffusion selon les plateformes? Eh bien, il s'agit de réévaluer ce qu'il convient de faire. C'est intéressant parce que avec US Girl, on a fait un essai. Il y a une très bonne équipe dans le monde entier. Et eux, ils ne font pas de pré-diffusion en flux. Bon, il y a des gens à l'intérieur qui voient s'il y a eu fuite ou s'il n'y en a pas eu. Bon, c'est pas comme autrefois. On envoyait des CD à toutes sortes de gens. On envoyait des MP3. Mais je pense que le premier vidéo est sorti au printemps et le disque est sorti le 25 septembre. Donc, il y a eu 3 CD. Et oui, il y a eu diffusion anticipée. Et ça a été le jour où c'est sorti. Bon, c'est une approche intéressante. Bon, tout est question de marketing. Et bon, il y a des gens qui veulent diffuser ça sur la plateforme ou CBC veut diffuser cela à l'avance. Tout cela attire de l'attention et ça amène beaucoup de gens à voir l'émission.
Y a-t-il des limites sur le préflux en continu, par exemple? Est-ce qu'il s'agit d'une négociation? Eh bien, on va le faire 2 semaines à l'avance, Radio-Canada au Canada et NPR aux États-Unis. Ça donne donc un accès exclusif. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut le diffuser à la grande échelle. Mais quand on regarde Spotify et les recettes qui en découlent, eh bien, on se demande si ça vaut la peine ou pas. On dit toujours dans notre secteur qu'en fin de compte, ça va produire du revenu. Alors, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Ce n'est pas quelque chose que je constate en réalité. Je vois que ça coûte 0,005 sous au Danemark, par exemple. On se demande ce qu'on ferait si on ne permettait pas la diffusion en continu. Est-ce que quelqu'un serait vraiment prêt à payer les 9,99 pour l'obtenir? Pour la plupart des artistes avec lesquels en travail, je pense que ça ne change pas grand-chose pour eux, finalement. Mais c'est intéressant de voir ce qui se passe du côté de 480 et leur façon de gérer la question. Et respectivement à d'autres sources de revenus, est-ce que il y a d'autres plateformes qui se sont adressées à vous pour inclure les chansons ou les producteurs de jeux vidéo? Est-ce que vous voyez cela comme une source possible de revenus? Ou est-ce que c'est purement sur le plan publicité que c'est intéressant? Eh bien, les conditions sont déjà fixées, bien arrêtées. Ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est une certaine exposition, si vous voulez. Il y a certains artistes qui s'en servent comme tremplin pour rehausser leur renommée, leur profil. Des fois, on voit les listes et on se demande ce que ça a à voir avec la chanson elle-même. C'est intéressant. J'aime bien les jeux vidéo où il y a la bande sonore en arrière-fond. Je l'aime bien cela. Il y a des choses très intéressantes qui se font du côté de la musique. Et la musique qu'on intègre dans ces jeux vidéo sont souvent donc des morceaux de musique moins connus. D'après mon expérience de la matière, il n'y a pas beaucoup de négociations. Quand on reçoit le document de conditions, c'est normalement 4 pages. Alors, ça sera sur toutes les plateformes, dans tous les pays du monde. Alors, voilà quelques dollars. Et j'imagine que ça dépendra en fait de l'influence que peut exercer votre artiste. C'est un artiste qui veut faire jouer sa musique aux enfants qui jouent un jeu vidéo. Alors, où est-ce un artiste qui ne s'intéresse pas vraiment à la publicité pour leur musique? Je n'ai pas vu d'exemple d'une situation où ça menait à autre chose. Donc, c'est une chanson parmi bien d'autres. Donc, voilà, c'est ça la situation. Alors, je sais que Sodimo parle de Jim Guthrie souvent et de son expérience. Alors, son cas est intéressant parce qu'il était un artiste indie. Il est chanteur. Il faisait des compositions pour les films, pour la publicité. Ils ont créé leurs propres règles. Alors, c'est une petite compagnie qu'il a. C'est un artiste plutôt régional, très peu connu. Ils ont créé quelque chose très unique. Alors, la bande sonore de ce jeu vidéo-là est incroyable. Ce n'est pas en arrière-plan. Alors, Nathan Vella de Capybara Games a participé à notre panel à Toronto. Jim Guthrie, oui, c'est ça. Jim Guthrie a créé la musique pour le jeu. Et quelle était l'entente entre eux? Vous pouvez garder les droits à la musique et on va maintenir les droits au jeu et vous pouvez donc imposer le droit d'auteur sur la musique. Et de cette façon, c'était intéressant pour la compagnie d'y participer. Donc, la musique était une partie intégrante du jeu. Il a bien aimé cela. Les conditions étaient très favorables pour lui. Et c'est bien parce que lui, il a pu maintenir les droits d'auteur. Il a créé un disque très beau. Il a intégré les œuvres artistiques du jeu vidéo également. Alors, pour beaucoup de joueurs, c'était leur premier disque, leur premier CD. C'est fantastique, c'est incroyable. C'est le summum. De ce qu'on peut faire quand on fait preuve de créativité, quand on change un petit peu les règles. C'est une situation gagnante, n'est-ce pas? Alors, il nous reste 5 minutes. Michael. On a abordé le sujet des négociations, des modalités du point de vue d'un producteur. Quand vous voyez qu'il y a un contenu précis que vous avez qui est offert et quand vous négociez avec un distributeur pour les droits mondiaux, par exemple, et on dit, écoutez, on veut avoir les droits connexes également, mais on dit également, on n'a pas un budget énorme, on va créer un jeu vidéo, mais le jeu vidéo ne sera pas très, très bon. Et vous, vous dites, écoutez, on n'est pas obligé de produire un jeu vidéo sur un monstre marin. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là quand vous pensez qu'on peut faire mieux? S'ils veulent donc obtenir ces modalités, les modalités où ils veulent avoir le droit d'auteur sur les jeux vidéo, je leur dis, écoutez, est-ce que ce sera un revenu brut ou pas? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas biffer cela de votre budget? Eh bien, je vais les maintenir. Je vais les garder moi. Alors, les agents de vente veulent obtenir ces droits souvent et je leur dis, écoutez, qu'est-ce qui va faire votre client avec ces droits? Parce que moi, je ne veux pas financer leur jeu vidéo, vous voyez. Moi, je leur pose leur question directement. Si vous ne voulez pas ou ne voulez rien, ne pas s'en servir, écoutez, pourquoi ne pas me permettre de les garder? Je veux savoir ce que vous comptez faire. C'est toujours la question que je pose. Ça les met sur la sellette quand on en pose cette question-là. Normalement, c'est précisé dans l'entente. Et ils disent, oh, non, non, ça c'est le gabarit qu'on utilise. Et je dis toujours, écoutez, je vais supprimer cette clause-là. Et normalement, ils vont dire, écoutez, on va vérifier. Et normalement, ils acceptent. Donc, ils vous reviennent, ils disent, écoutez, d'accord, des fois, s'ils me reviennent pas, eh bien, je supprime la clause moi-même, je leur envoie la copie, ils signent, ça me revient. Donc, je peux garder le contrôle sur les droits connexes de cette façon. Est-ce que vous avez étudié la question des droits de récupération? Alors, je n'ai jamais signé une entente qui cédait les droits à perpétuité. Jamais. Non, mais là, je parlais de la période. Donc, vous disposez d'un an pour vous servir de ces droits. Et si vous ne vous servez pas de ces droits pendant la période d'une année, eh bien, je peux les récupérer. C'est bien d'avoir ce genre de clause. Moi, je leur dis toujours, écoutez, si vous voulez qu'on en parle, revenez me voir. C'est ce que je leur dis toujours. Je n'ai jamais été acculé au pied du mur. Pour ce qui est de cette question-là, normalement, on sait que je n'ai pas cédé les droits à perpétuité. Je suis toujours rendu bouche bée par le pouvoir, en fait, de poser la question. On dit, on ne sait pas comment répondre à la question. Alors, quand du côté de la distribution, on demande toujours, on revendique toujours ces droits, et souvent les producteurs vont me dire, est-ce que vous en avez besoin vraiment? Je vais leur dire, écoutez, probablement pas. Mais si je signe une entente où je peux céder les droits de jeux vidéo, eh bien, je vais le faire. Si je vends ces droits pour 5 000 ou 5 $, ça serait considéré comme étant un revenu en partie intégrante du revenu brut, finalement. Et normalement, ça va. on essaie de faire preuve de transparence. Je suis toujours prêt à répondre à la question et non, des fois, je dis non, non, ça va, vous pouvez les garder. On biffe cette clause-là. Et le moment est venu maintenant pour vous de poser vos questions. Alors, je pense qu'il y a un microphone mobile. Le voilà. Là-bas, Jean Brown. Je vais poser une question, moi. C'est dommage que Nathan ne soit pas là. Il me semble que Jim Guthrie est bien mise gros sur la confiance, n'est-ce pas? C'est le titre d'une chanson, d'ailleurs. Alors, c'est un modèle intéressant pour les négociations. Il faut établir une relation fondée sur la confiance. Comment est-ce qu'on peut adopter ce modèle dans vos industries respectives? C'est peut-être une question trop philosophique pour vous, je ne sais pas. Les ententes juridiques existent pour une raison. Les ententes juridiques, eh bien, ne rentrent pas en ligne de compte, sauf quand il y a un problème. Il y a toujours un élément de confiance, mais quand les relations ne sont pas bonnes, eh bien, il faut une entente juridique. On ne peut pas faire confiance à tout le monde, vous le savez, donc il faut une entente juridique. Et les avocats sont essentiels également. Tout le monde adore les avocats, dit Scott. Je n'aurais pas dû peut-être répondre à cette première question, mais c'est une bonne question que vous avez posée. J'aimerais ajouter un dernier point. Même quand on a une entente très solide, les ententes ou les accords ne sont jamais assez limpides, assez clairs. La question se posait justement dans le cas du monstre marin. J'aimerais donc poser la question suivante. Et si on modifiait la loi, s'il y avait un droit automatique dans le cas d'une chanson, par exemple, accordant les droits au jeu, etc., il faudrait peut-être un cadre en place pour encadrer l'utilisation de ces droits-là, de la chanson. Alors, les droits d'auteur sont établis, mais je ne sais pas comment. C'est normalement la compagnie qui est le chef de file qui propose un taux et c'est ensuite adopté par le marché. C'est ce qui est arrivé du côté de iTunes. Si on avait des taux plus élevés, ça serait fantastique. Si c'était 0,1, par exemple, ça serait fantastique, mais il va y avoir des pressions exercées de l'autre côté. Eh bien, il faudrait peut-être en écouter toute la publicité au lieu de pouvoir sauter au bout de 5 secondes. Je pense que modifier les lois, ça va renforcer le phénomène du piratage. On a appris que c'est très difficile de mettre en vigueur les règles, de faire respecter les règles. Qu'est-ce que va faire le gouvernement? Est-ce que le gouvernement va effectuer des vérifications? Ce n'est pas facile, mais j'aime bien ce que vous dites. Il faudrait qu'on agisse. C'est une véritable préoccupation, surtout pour les films et les chansons. Du côté des consommateurs, eh bien, les consommateurs n'achètent plus des CD, ils s'adressent à Spotify ou ils s'adressent à Netflix pour les films, etc. Du côté des jeux, les consommateurs achètent les jeux. À un moment donné, il va avoir une plateforme de $10 par mois où on va pouvoir avoir accès aux jeux et on va se trouver dans la même situation que vous. Ça a déjà été tenté ailleurs. Ça va réussir. On va se trouver dans la même situation que vous parce que les consommateurs veulent tout pour un forfait de $10. Autrefois, on avait besoin d'un disque Mais maintenant, non, on peut passer par Spotify, je peux faire une recherche et je peux jouer la chanson que je veux. Et ça va arriver du côté des jeux et ça va exercer des pressions sur les prix. C'est ça qui va nous arriver. Les consommateurs vont diriger le marché, finalement. On va devoir les suivre. Et c'est pour cela que du côté de la musique, vous pouvez effectuer des tournées. Et j'ai une solution à votre problème au sujet des flux en continu. Vous devriez peut-être, vous pourriez peut-être faire ce que je vous dis de faire. Je vous dirai après. Alors, je voulais aborder la question que vous avez posée parce que il y a tout un organisme qui existe qui s'appelle le Corporate Board of Canada. Et c'est les groupes tels que les collectifs représentant les artistes, et ils peuvent s'adresser à cet organisme pour fixer les droits d'auteur. Le gouvernement est impliqué. J'aimerais bien que les créateurs en sachent davantage. Alors, ça fixe les droits d'auteur minimal et aussi le maximum également, le plafond. Et puis, il y a des tarifs qui sont imposés sur la musique. On n'aime pas forcément les tarifs. C'est compliqué. Ça va, bien entendu. Mais le gouvernement peut jouer un rôle et nous devons nous sensibiliser à ce qu'on peut faire et ce que peut faire le gouvernement également. Alors, ça serait bien qu'on nomme des gens au conseil d'administration et c'est très lent, c'est très onéreux, ils n'avancent pas vite. Quand les décisions sont prises, les technologies sont déjà désuètes. C'est un autre sujet pour un autre moment. Un sujet pour un autre moment, je pense.
Eh bien, je me demandais si vous pouviez nous parler du processus lié au film que vous allez produire en fonction du livre. C'est un long métrage qui s'appelle Away from Everywhere, qui a été réalisé à Terre-Neuve en avril dernier. C'est fondé sur un livre. Je n'ai pas participé aux discussions touchant l'option, mais moi, j'ai participé à la coproduction. J'ai eu un mot à dire au moment de la négociation du renouvellement. En fait, ça a été assez simple. Bon, je ne peux pas vraiment trop révéler ici, mais bon, il n'y a pas eu de surprise dans mon cas. Et dans toute négociation sur un produit existant, il y a toujours divergence, évidemment, au sujet de ce qu'on estime être la valeur du produit et sur ce que le producteur pense que ça vaut. Alors, il faut se convaincre l'un l'autre que l'entente est bonne. Et je pense que, évidemment, le livre n'était pas vraiment très bien connu. Ça ne faisait pas partie des 10 principaux succès de librairie. Mais les deux, quand connaissaient bien les risques qui étaient pris. Pour revenir à la confiance, le rédacteur l'écrivain, évidemment, a mis tout son cœur dans la rédaction de son livre. Ensuite, celui qui investit dans le produit final, évidemment, a consacré 1 ou 2 ou 10 ans à produire son œuvre. Et ensuite, il faut cet élément de confiance. Tout le monde, évidemment, surestime ce que vous avez créé. Vous êtes le seul à savoir, évidemment, ce que ça vous a demandé comme travail. Alors, évidemment, tout le monde veut le plus possible pour son œuvre. Bon, il faut qu'il y ait vraiment un grand climat de confiance. Il faut partager les risques. Et c'est vrai, il faut avoir confiance dans la réputation de la personne avec laquelle on fait affaire. Bon, moi, je m'en remets à ceux qui établissent la part des profits. Bon, évidemment, si le produit devient très rentable, évidemment, tout le monde peut s'entendre sur la répartition de l'argent qui a été produit. Bon, si on me donne un peu d'argent de plus, c'est très bien, mais ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Avez-vous dit qui était l'éditeur et l'auteur du... L'éditeur Breakwater Books et l'auteur Chad Pelley. Un éditeur de l'Est, oui. Donc, une maison d'édition canadienne, oui, je crois que oui. C'est un très bon livre. Est-ce que ça ferait un bon jeu? Oui. Quand est-ce que le film va être sur les écrans? À un moment donné, en 2016, je ne suis pas encore certain de la date. Je suis curieux. Bon, quand vous obtenez votre 0,015 sous de Shopify, est-ce qu'on vous paye toujours la même chose qu'en Grande-Bretagne ou aux États-Unis? Non. C'est un peu lié au taux de la devise pour iTunes. C'est 9,99, 9 livres. Alors, on obtient davantage. Oui, ça varie. Bon, je pourrais passer toute une journée sur une seule ligne, mais pour ce qui est... Bon, je ne m'étends pas trop longuement là-dessus parce que je me dis oui, ça va, mais ça ne vaut pas la peine que je consacre trop d'attention de plus. Oui, ça va vous coûter plus cher pour vérifier que vous avez obtenu 8 sous. Ça, ça prend 8 $ la différence, mais une fraction de dollars. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a une ici. Bonjour. Je viens de JPC Entertainment, c'est à toi. Nous produisons du contenu pour enfants. C'est une de nos principales activités. Je vais revenir à ce que Scott disait au sujet des diverses façons d'exploiter de façon financière les multi-plateformes. On commence dès le départ à passer du jeu lorsqu'on produit un produit pour enfants. On travaille avec un partenaire. On établit un partenariat dès le départ. Et comme c'est un contenu pour enfants, on veut de plus en plus un contenu pédagogique. Mais on se demande toujours comment exploiter financièrement le produit. Nous pensons faire tout ce qu'il faut faire. Mais ça ne semble pas être le cas parce qu'on obtient que ce 8 sous de vous parler. Nous faisons de la publicité, nous essayons de faire connaître notre marque, nous demandons aux radiodiffuseurs de faire de la publicité sur le contenu et sur la série qui est présentée à la télévision. Mais nous n'avons pas encore trouvé la combinaison magique. Alors, j'aimerais que vous nous donniez des conseils là-dessus parce que nous essayons de diffuser notre produit sur toutes les plateformes. Malheureusement, votre histoire est assez fréquente. C'est difficile de savoir exactement comment faire. Et lorsqu'on vise les enfants, évidemment, la publicité s'adresse aux parents. Bon, on ne peut pas vraiment faire une publicité sur les médias sociaux parce que les enfants, habituellement, ne peuvent pas consulter les médias sociaux. C'est difficile, c'est vrai, mais ce qu'il faut essayer de faire, bon, et vous avez déjà un produit de marque, les marques, malheureusement, ont de plus en plus d'importance dans le monde. Bon, ça serait prenons l'exemple de ce monstre marin, ça serait le monstre marin Nestlé, par exemple. Alors, les marques ont beaucoup d'argent et ce qu'on voit, même chez les enfants, c'est que, bon, on obtient la licence. Bon, on n'investit pas seulement dans la production, mais on vous aide avec les médias sociaux. Bon, c'est un peu difficile. Alors, on se demande un peu qui explique le succès de la page web de Nestlé. Mais moi, j'aimerais que quelqu'un me dise combien d'amis Nestlé a sur Twitter, et ça sera des centaines de milliers. Et bon, si vous avez conclu une entente avec Nestlé, ils vont vous fournir une certaine aide pour faire connaître votre produit. Et c'est une façon de réduire vos pertes à tout le moins. Bon, c'est pas vraiment très encourageant. Je vous encourage cependant à penser à ces divers programmes. Il y a différents produits qui visent à faire connaître votre produit à vous. Et on peut recourir à des solutions novatrices. Mais ça revient à ceci. Il faut essayer diverses choses. Mais ce n'est pas facile d'attirer l'attention. Et dans les industries créatives, c'est encore plus difficile. Oui, c'est comme un peu la loterie. Bon, la seule leçon que nous ayons vraiment apprise, c'est que pour chaque dollar qu'on dépense à l'extérieur de la plateforme, c'est de l'argent gaspillé. Alors, si vous faites un jeu PC, il faudrait que quelqu'un puisse l'acheter immédiatement. Bon, la publicité par télévision, c'est de l'argent gaspillé parce que les gens voient une marque et l'oublient. Il faut pouvoir acheter immédiatement le produit. Eh bien, voilà tout le temps dont nous disposions. Je voudrais remercier les panélistes, John Bartley, Michael Simpson et Michael Dobbin.